Bonjour tout le monde, bienvenue à Crime et Cocktail. Mon nom c'est Noémie, passionnée de True Crime.
Et moi c'est Jessica, tout autant passionnée de True Crime.
Hey, avant tout, tout le monde, bonne année. On est vraiment contente de vous retrouver pour le premier épisode de 2025.
Bonne année! Et pour tous les gens qui nous écoutent et qui ne sont pas originaires du Québec, au Québec, on dit bonne année, grand nez. Et on se fait répondre?
Pareillement, grande dent. Avant qu'on continue, je veux m'excuser d'avance pour ma voix parce que j'ai eu une petite bronchite. Fait que si jamais j'ai de la misère, pardonnez-moi. C'est pas de ma faute, OK?
Moi, je te pardonne déjà. Fait que je suis certaine que tout le monde te pardonne aussi.
Merci, j'apprécie. Puis aussi, voyons, ma voix commence déjà à lâcher, ça va bien. Mais aussi, avant qu'on passe à d'autres choses, n'oubliez pas, pour la nouvelle année, d'aller nous suivre sur nos réseaux sociaux. T'en penses quoi, Jess?
Je pense que c'est une maudite bonne idée. Puis au passage, allez donc nous laisser une note sur votre plateforme d'écoute, quelle qu'elle soit. Écoutez, on vous demande pas un 5 étoiles, mais un 5 étoiles, ça fait toujours du bien. C'est un beau cadeau du nouvel an. Et surtout, ben, ça aide d'autres gens à découvrir le contenu qu'on vous prépare. Mais tout ça pour dire que si vous voulez nous aider à se faire découvrir, à se faire entendre et à peut-être pouvoir vous faire plus de contenu éventuellement, ben donnez-nous un petit coup de main en allant nous donner une belle petite note.
Comme vous le savez, on a arrêté les moments « what the fuck » de la semaine pour remplacer ça par les causes C et C, mais on vous avait dit que si jamais il y avait quelque chose qui méritait d'être parlé, qui était très « what the fuck », on allait le faire et aujourd'hui, on a quelque chose pour vous. Il y a quelques semaines, on a reçu un DM sur Instagram d'une fille qui a rencontré une tueuse qu'on a traitée à Crime et Cocktail.
Ben oui, tous les choses, la surprise qu'on a eue quand on a lu le message... Il y a un chat qui monte sur la clôture. Excusez, petite interruption, on voit la neurodivergence ici. Il y avait un chat qui vivait sa vie, alors ça m'a interpellée. Qu'est-ce qu'on disait à nous?
Qu'il y avait quelqu'un qui nous avait écrit parce qu'elle avait rencontré une tueuse qu'on a traitée sur le podcast, puis c'était une tueuse d'un signe zodiaque, le signe du poisson.
Taureau.
Ah, c'est vrai, je m'excuse, taureau. Je sais pas pourquoi je pense tout le temps à poisson, mais c'est taureau. Bref, puis ça m'a pas tant surprise que ce soit elle parce que, ben, on en avait parlé dans l'épisode qu'elle avait comme été retrouvée à Châteauguay, qu'elle faisait du bénévolat à l'école de ses enfants. Fait que Châteauguay, c'est au Québec, là. C'est très proche d'où ce qu'on habite, là. Fait que si vous l'avez deviné ou pas, c'est... Ah!
On vous laisse 2 secondes pour deviner. Qui tu pensais?
Évidemment, c'est Carla Homolka! Je vais vous lire le message de la personne, dans le fond, qui nous explique comment qu'elle a rencontré Carla Homolka. Elle dit « Coucou, on en avait déjà parlé un peu, elle nous avait dit qu'elle l'avait rencontrée puis qu'on pouvait en parler sur le podcast. » Donc le message dit « Coucou, ça fait très longtemps, hahaha, elle était sortie de prison 1 ou 2 ans auparavant, je ne me rappelle pas exactement. C'était en 2007. On en avait parlé aux nouvelles parce qu'elle avait travaillé dans une quincaillerie dans le Vieux-Longueuil. Alors, son visage était frais dans ma mémoire. De plus, j'ai une bonne mémoire des visages. Je travaillais alors que j'étais à l'université dans une petite pâtisserie-charcuterie. Bref, un soir, une dame arrive et demande plusieurs choses. C'est moi qui la sers. Elle me dit vraiment quelque chose. Elle est blonde et a un accent anglophone. Et boum, je fais le lien. C'est bien elle, c'est Carla Homolka. J'ai continué de la servir comme si de rien n'était, mais dans ma tête, je me disais que j'avais une psychopathe devant moi. Une psychopathe qui avait laissé sa sœur mourir dans son vomi. Je crois que j'en suis jamais revenue. Lol. Puis un peu plus tard, elle dit, parce qu'on lui a demandé comme « tu devais tellement ressentir d'adrénaline », elle a dit « oui, j'étais un peu sur l'adrénaline, j'essayais de faire comme si de rien n'était ». J'ai essayé de voir le nom sur sa carte, mais je ris pas parce que c'est tellement une bonne idée, c'est très détective, je trouve.
Ah ouais, non, vraiment, on la salue.
J'ai essayé de voir le nom sur la carte, mais elle avait payé débit et ce n'était pas inscrit, haha. J'étais allée vérifier après sur les internets pour confirmer mes soupçons, c'était bien elle, malheureusement. Ça doit être quand même assez fou de se trouver face à face à, justement, comme cette personne a dit, une psychopathe.
Tellement, puis je veux dire, moi je souligne vraiment à quel point cette personne-là a été, elle a fait preuve de considération, je veux dire, on parle d'une meurtrière, là, on s'en fout, en tout cas, moi, selon moi, on s'en fout si elle voit que tu la reconnais, je veux dire, c'est le prix que t'as à payer, ma belle, pour avoir tué quelqu'un, je veux dire, tu vas peut-être te faire reconnaître dans la rue, fait que petit conseil d'amis, ne tue pas ta sœur si tu veux pas te faire regarder croche quand t'essaies de vivre ta vie après, things. Moi je trouve que l'employée a vraiment fait preuve de bonté envers Kamala, on dirait, Kamala, ben voyons donc. Ok, je passe trop de temps à ma tête dans l'actualité politique, mais Bref, moi, je pense que j'aurais pas eu la force mentale d'être neutre pour le bien, pour que la transaction se passe bien. Je pense que tu mérites une augmentation de salaire.
Moi, je pense que j'aurais eu un bug de cerveau. J'aurais comme figé un peu, mais mentalement. Fait que je l'aurais servi pareil, mais un peu en mode zombie. Parce que, tu sais, je suis d'avis, tu sais, je suis d'accord, là, quand que t'as servi ton temps, t'es sorti de prison, comme t'as fait te payer ta dette à la société. Mais des fois, la justice, comme on le dit souvent sur le podcast, il y en a juste pas de justice. Puis je trouve qu'il y en a dans le cas de Carla Molka, il y en a pas vraiment eu. Puis on se rappelle, oui, elle a tué sa sœur, mais après avoir regardé son chum la violer, puis avoir un peu participé aussi, fait que. Moi, c'est un des. Je pense que c'est le crime qui m'a le plus dégoûté ever qu'on a parlé sur le podcast. Fait que c'est sûr que de me retrouver face à face avec cette personne-là, ouais, ça doit être vraiment bizarre. Je sais pas comment je réagirais. Mais bref, on voulait vous le partager parce que c'est quand même quelque chose d'assez intense, là. Puis, ben, ça fit avec le podcast. Hein.
Pour fitter, ça fit. En tout cas, maintenant qu'on a parlé de tout ça, est-ce qu'on peut parler de quelque chose de plus positif et de parler de l'organisme du jour? Non, pas l'organisme. On est rendu au cocktail, Matchum. Mocktail parce que c'est le mois de janvier et qu'on fait le mois de janvier séché.
C'est tellement bizarre en français. Mais oui, effectivement, Jess fait le dry January ou le janvier séché, comme elle l'appelle. Puis moi, j'ai décidé que je ne buvais pas jusqu'à ma fête parce que ça me tente juste pas. Puis je pense que ça va être bien pour mon corps. On dirait que tout est trop intense. On abuse de tout pendant le temps des fêtes. Fait que ça fait du bien. Puis j'ai été super malade. Fait qu'on dirait que j'ai juste l'impression de cleanse mon corps. Je sais pas pour toi, Jess, là, mais ça fait du bien.
Ouais, non, vraiment. Puis surtout aussi se montrer qu'on est capable de gérer notre consommation. Puis que c'est pas devenu une habitude. Parce que tu sais, on est comme dans une société, surtout au Québec, on est comme dans une société où c'est vraiment pas mal vu de boire, mettons, tous les jours ou de t'ouvrir ta bière en finissant le travail et tout. Puis je veux vraiment pas faire la morale. Je suis vraiment pas là pour être moralisatrice, mais moi, j'avais envie de me prouver à moi que j'avais le contrôle sur ma consommation. Fait que de pas boire pendant un mois, ça va aider. Puis si j'ai envie de continuer après, je continuerai. Je voulais juste vraiment faire, tu sais, le mois au complet. Puis ça peut arriver dans ma vie des fois que je vais passer 2, 3, 4 semaines sans boire. On dirait que je le fais pas de manière consciente. Fait que là, juste d'être consciente, c'est vrai que je trouve que c'est un accomplissement en soi, puis un espèce de petit dépassement de soi. C'est un beau cadeau qu'on se fait pour commencer l'année.
Ouais, ça commence l'année du bon pied. Bref, fait qu'on boit un mocktail aujourd'hui. C'est un mocktail au pamplemousse et épices. Les ingrédients sont 1/2 once de jus de citron, 3/4 once de sirop d'érable, du gingembre frais râpé. Ça, c'est au goût, mais je trouve que ça rajoute justement du goût. Puis, ben, c'est bon pour la santé. Puis, pendant Noël, tout le monde a été malade. Ça va vous faire du bien, ce cocktail-là. Bref. Une petite pincée de poudre de curcuma, ou vous pouvez le râper si vous l'avez frais. 1/2 tasse de jus de pamplemousse frais et de la cassonade pour givrer le rebord du verre. En premier, Jess vient de me faire réaliser que c'est elle qu'il faut qu'il dise le cocktail aujourd'hui. Fait qu'en tout cas, vous avez les ingrédients, je vais laisser Jess dire les instructions.
podcast un petit peu chaotique aujourd'hui. Je veux juste souligner ton choix de mots, givrer le verre. Comme oui, quelle belle formulation, j'apprécie. Donc, justement, en parlant de givrage de rebord de verre, ben vous allez faire exactement ça. Vous allez givrer le rebord d'un verre. Puis pour ceux qui savent pas trop qu'est-ce que ça veut dire, c'est vraiment simple, ma bonne chum. Tu mets du sucre sur le bord de ton verre. Voilà, 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 voilà. Vous allez avoir besoin de vous armer d'un shaker et de glaçons. Vous allez combiner le jus de citron, le sirop d'érable, le gingembre râpé, le curcuma et le jus de pamplemousse frais. Et si vous n'avez pas de jus de pamplemousse frais, on le sait, pas la marque Oasis, s'il vous plaît! Et justement, avec votre shaker, tous vos ingrédients, votre glace, vous allez shake, shake, shake! Attends, on le fait-tu faire à nous, juste pour voir? Vous allez
shake, shake, shake!
Et voilà, vous allez filtrer le verre. Non, pas filtrer le verre. Vous allez filtrer le contenu du shaker dans votre verre. Et vous allez garnir, si vous le désirez, d'une tranche de pamplemousse ou d'une tranche de gingembre frais. C'est un cocktail équilibré, frais, un petit peu épicé, parfait pour des amateurs de saveurs audacieuses. Et surtout, t'as comme beaucoup d'ingrédients que tu utilises dans des jus détox. Fait que pour le janvier sèche, c'est comme une double détox, ma bonne chum.
Voici, voilà, voici, voilà.
That's all!
Basketball!
Moi, je pense que je vais donner un bon 9,5 sur 10. J'ai pas d'explication. Ça goûte bon, ça goûte fruité. C'est vrai que c'est un petit peu épicé, mais pas genre ça pique sur ta bouche, mais comme il y a beaucoup de saveurs. Puis on dirait que chaque fois que je prends une gorgée, je me sens plus en santé.
Moi aussi, je pense 8,5, 9. Parce que je suis pas nécessairement la plus grande fan de jus de pamplemousse, mais Avec ce cocktail-là, ça passe quand même assez bien. Puis, comme tu dis, je me sens en santé à chaque gorgée. Fait que 8,59. Note finale.
Cheers!
Chin-chin! Là, Jess, c'est le temps de la cause CC.
Ça, j'avais tellement hâte, moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur qu'il fallait passer maintenant!
Donc, pour honorer les luttes et les défis qui vont être abordés dans cet épisode, on vous invite à découvrir et soutenir l'organisation Native American Rights Fund, donc la NARF. Cette organisation-là œuvre depuis 1970 pour défendre les droits des peuples autochtones aux États-Unis, que ce soit en matière de souveraineté, de protection des terres sacrées ou encore de justice sociale. Le NARF fournit une aide juridique aux communautés autochtones dans des cas de discrimination, d'accès à l'éducation et de défense de leurs traités. En soutenant leurs initiatives, vous pouvez contribuer directement à préserver les cultures, les droits et libertés des peuples autochtones, souvent bafoués dans l'histoire et encore aujourd'hui. Si vous voulez aller même plus loin, vous pouvez aussi vous renseigner sur les campagnes locales dans votre région pour soutenir les langues, les traditions et les causes des Premières Nations. Ensemble, chaque geste compte pour bâtir un avenir plus équitable. Pour plus d'informations, visitez leur site web narf.org. Narf.org. J'ai de la misère avec ma voix. Là, tout le monde, imaginez que vous êtes un militant. Pas un militant ordinaire, mais quelqu'un qui se bat pour les droits de son peuple, dans une terre où les injustices s'empilent depuis des générations. Un endroit où le danger est constant, où chaque voiture qui approche pourrait être une menace. Un jour, deux policiers débarquent. La tension monte, les regards se croisent. En quelques minutes, tout bascule. Une fusillade éclate, des morts des deux côtés, et toi, tu te retrouves en fuite, accusé de meurtre que tu jures ne pas avoir commis. Des années plus tard, t'es toujours en prison, symbole pour certains, criminel pour d'autres. Alors, qu'est-ce qui s'est vraiment passé ce jour-là et surtout, est-ce que la justice a été rendue? Dans un monde où la vérité semble se perdre dans le bruit des coups de feu, comment savoir ce qui est juste? Voici l'histoire d'un combat, d'un homme et d'une justice que beaucoup jugent biaisée. Mes sources pour le cas d'aujourd'hui sont Wikipédia, freeleonard.org, Britannica, chris.load.net, static1.squarespace.com, WLHSmemorial.org et odmp.org. Dans les années 70, la réserve de Pine Ridge, qui est située dans le Dakota du Sud, c'était un terrain miné de tensions sociales, politiques et culturelles. Les habitants, qui étaient majoritairement Lakotas, vivaient dans une pauvreté extrême. Ce n'était qu'une seule facette du problème. Au cœur des tensions, deux camps s'opposaient. D'un côté, le conseil tribal dirigé par Dick Wilson, un homme accusé de gouverner avec des méthodes autoritaires et de favoriser les intérêts du gouvernement américain au détriment de sa propre communauté. De l'autre, les militants de l'American Indian Movement, donc le AIM, qui défendaient les droits des peuples autochtones, luttant contre des siècles d'oppression et d'assimilation forcée. La réserve ressemblait à une zone de guerre. Dick Wilson, avec sa milice privée surnommée les Goons, Guardians of the Oglala Nation, semait la terreur, attaquant ceux qui osaient contester son pouvoir. Les militants de l'AIM, quant à eux, étaient déterminés à protéger leur communauté et à réclamer justice pour les violences et discriminations dont les Autochtones étaient victimes. À Pine Ridge, les militants se battaient pas seulement pour des droits, ils se battaient littéralement pour leur survie. Mais jusqu'où peut aller une communauté désespérée pour se faire entendre? Et comment maintenir la paix dans un endroit où chaque regard peut être perçu comme une menace? C'est dans ce climat-là explosif où la méfiance et la peur dominaient qu'un événement tragique allait marquer l'histoire et qu'un homme va devenir, malgré lui, un symbole de cette lutte. Cette personne, c'est Léonard Pelletier, membre de la tribu Chippewa de Turtle Mountain. Aujourd'hui, on le connaît comme un grand militant pour les droits des peuples autochtones, mais avant tout ça, Léonard, c'est une personne. Un homme avec ses forces, ses faiblesses et une vie qui va bien au-delà des étiquettes. Né le 12 septembre 1944 à Grand Forks, dans le Dakota du Nord, aux États-Unis, il était le 11e d'une famille de 13 enfants. Quand ses parents ont divorcé 4 ans après sa naissance, Léonard et une de ses sœurs ont été envoyées vivre avec leurs grands-parents paternels dans la réserve de Turtle Mountain, située dans le comté de Rowlett, dans le nord du Dakota du Nord.
Ça fait beaucoup de nord.
C'est très au nord. En 1952, Léonard perd son grand-père. C'est une perte qui va marquer un tournant dans sa vie. Son grand-père, c'était un homme bon puis bienveillant, un mentor pour Léonard, et il lui avait appris à vivre en harmonie avec la terre. Léonore se souvient douloureusement d'avoir vu son grand-père mourir à l'extrémité de son lit. C'est une image qui est restée gravée dans sa mémoire et même aujourd'hui, en prison, cette triste scène revient à son esprit chaque fois qu'il s'allonge dans son lit. Seulement un an après la mort de son grand-père, sa grand-mère se voit contrainte de se rendre au Bureau des affaires indiennes, la BIA, pour quémander de l'aide pour elle et ses petits-enfants, Léonore, sa sœur Betty Anne et leur cousine Pauline. Mais malheureusement, cette démarche n'apporte rien de bon. Au contraire, ça complique encore plus leur situation. Ils vont se retrouver désormais à craindre l'arrivée des agents du BIA qui pourraient les séparer de leur famille. À l'âge de 9 ans, Léonore a été envoyée dans un pensionnat autochtone à Whipton, dans le Dakota du Nord, comme tant d'autres enfants autochtones à l'époque, arrachés à leur famille et à leur culture. Après avoir obtenu son diplôme, il a été transféré à la Flandreau Indian School au Dakota du Sud, une autre institution du même genre où les méthodes visaient davantage l'assimilation que l'éducation. Léonore a abandonné cette école-là d'ailleurs en 9e année pour rejoindre son père dans la réserve de Turtle Mountain. Aujourd'hui, je tiens à vous lire un extrait du témoignage de Léonore Pelletier sur son expérience des pensionnats autochtones dans lequel il parle de son expérience personnelle et des impacts qu'ils ont eus sur lui. C'est écrit « J'ai grandi avec ces histoires. J'étais assez grand pour savoir ce qui se passait quand le gouvernement vous emmenait. Je savais que certains enfants ne rentraient jamais à la maison. Alors, ma grand-mère, mes sœurs et moi, nous guettions les nouvelles voitures du haut de la colline. Les voitures indiennes étaient vieilles et faisaient beaucoup de bruit. Alors nous les entendions arriver. Nous étions toujours prêts à courir nous cacher dans les bois. Mais un jour, j'oublie de courir me cacher et les filles se cachaient dans la maison. Cette voiture rutilante a gravi la colline et s'est arrêtée devant notre maison. Un homme est sorti d'une Chevy Fleetline 1952. Je n'oublierai jamais cette voiture du gouvernement. Ma grand-mère ne comprenait pas grand-chose à ce qu'il disait et aucun autre adulte n'était là. Mais elle a finalement compris qu'il était venu nous chercher. L'homme du gouvernement nous a dit qu'il nous amenait dans un pensionnat parce que ma grand-mère ne pouvait pas s'occuper de nous. J'aimais ma grand-mère, je savais qu'il avait tort. Elle s'est mise à pleurer et l'a supplié de ne pas nous amener. Elle a crié, mais lui a dit qu'elle serait emprisonnée si elle essayait d'intervenir. C'est tout. Je n'ai rien dit. J'avais 9 ans, mais j'avais peur que si je disais quoi que ce soit ou si j'essayais de m'enfuir, l'homme du gouvernement amène ma grand-mère et la mette en prison. J'ai donc regardé grand-mère emballer les quelques vêtements que nous avions et les mettre dans un petit paquet. « Protège tes sœurs, ne laisse personne leur faire du mal », m'a dit grand-mère avant que l'homme du gouvernement ne nous amène. Je lui ai promis que je le ferais, mais j'ai failli éclater en sanglots. En une seule journée, mon monde a changé. Je sais que je n'étais qu'un petit enfant, mais je me sentais tellement impuissant. Peut-être que ce jour-là a été mon introduction à ce destin que je n'ai pas choisi. Je vous conseille très fortement d'aller lire le témoignage complet de Léonore Pelletier au sujet des pensionnats autochtones qui, à mes yeux, est une lecture essentielle pour comprendre l'ampleur de ses expériences traumatisantes. Je vous ai lu seulement une partie. Elle me donne des frissons, donc juste lisez-la au complet, ça vaut vraiment la peine. C'est poignant. J'ai pas d'autres mots. C'est vraiment poignant.
Non, c'est vraiment, vraiment rough. Ce que tu viens de lire, c'est juste... Je peux même pas m'imaginer être mise dans cette position-là. Moi, j'encourage aussi tout le monde à aller lire le reste, puis je veux le lien, s'il vous plaît, pour pouvoir faire la même chose.
Oui, le lien va être avec les autres liens dans nos descriptions d'épisodes, puis on va mettre entre parenthèses, dans le fond, que c'est la lettre de Léonore Pelletier, pour que vous puissiez savoir c'est laquelle. Bref, justement, de retour à Léonore Pelletier, c'est là, face à la politique de Terminate, que le gouvernement américain appliquait aux peuples autochtones en coupant les vivres et l'aide fédérale pour forcer leur assimilation à la société euro-américaine, que Léonore a commencé à comprendre l'ampleur des injustices auxquelles sa communauté faisait face. Cette prise de conscience-là a marqué le début de son activisme et pour Léonore, l'activisme n'était pas simplement une question de politique. C'était une question de survie culturelle, de respect des traditions, de lien avec la terre et les ancêtres. Ces valeurs profondément ancrées en lui seraient les moteurs de toute son action. En 1965, il s'installe à Seattle et là-bas, il devient copropriétaire d'un atelier de carrosserie où il emploie d'autres membres des communautés autochtones et propose des réparations accessibles à ceux qui en ont besoin. Il joue également un rôle clé dans la création d'une maison de transition pour les anciens délinquants autochtones et s'engage activement dans des causes liées aux revendications territoriales et à la prévention des terres autochtones à Seattle. à la fin des années 60 et au début des années 70, Léonard occupe divers emplois comme soudeur, charpentier et conseiller communautaire, tout en s'impliquant de plus en plus dans la AIM, qui est, comme j'ai dit tantôt, une organisation militante qui défend les droits civiques des peuples autochtones. Il va rejoindre la section de Denver de l'AIM, où il va consacrer une grande partie de son énergie à des programmes visant à améliorer les conditions de vie des communautés autochtones. D'ailleurs, parmi ses actions notables, on trouve sa participation au Trail of Broken Treaties en 1972, un événement transcontinental qui a abouti à l'occupation des bureaux du Bureau of Indian Affairs à Washington, D.C. Dans les années 70, Léonard et d'autres militants de l'AIM se rendent dans la réserve de Pine Ridge, dans le Dakota du Sud, pour soutenir les Oglala Lakota en organisant des activités communautaires, des cérémonies religieuses, des programmes d'autosuffisance et pour renforcer la sécurité sur place. Mais malheureusement, à Pine Ridge, l'atmosphère est loin d'être paisible. Depuis des mois, la communauté était plongée dans un climat de peur et de violence, marqué par des affrontements entre les militants de la AIM et du groupe paramilitaire local connu sous le nom de Goons, comme je vous ai parlé tantôt, qui était soutenu par le président tribal Dick Wilson. Les Goons étaient accusés d'intimider et de brutaliser les opposants de Wilson, semant la terreur dans la réserve. Les habitants vivaient sous une constante menace, convaincus que leur vie et leurs droits étaient en danger. Au milieu de tout ce chaos-là, la méfiance envers le FBI, qui était déjà profonde, ne cessait d'augmenter, bien que les agents fédéraux affirment être présents pour enquêter sur les crimes, de nombreux membres de la communauté les percevaient comme complices des violences, accusés de fermer les yeux sur les actions des Goons. Aux yeux de l'AIM et de ses sympathisants, le FBI représentait une force oppressive peu différente de celle qui avait historiquement brimé les peuples autochtones. Ce climat explosif d'ailleurs atteint son paroxysme le matin du 26 juin 1975. Deux agents du FBI, Jack Kohler et Ronald Williams, s'engagent dans une enquête de routine pour localiser un suspect qui est accusé de vol et d'agression. Leur objectif ce jour-là semble simple, retrouver et interroger Jimmy Eagle, un jeune homme de la réserve, mais ce matin-là n'avait rien d'ordinaire. Les agents qui étaient à bord de leur voiture entrent sur une propriété près de Jumping Bull Ranch, un lieu qui était connu pour être fréquenté par des membres de l'AIM. Ce matin-là, ce qui semblait être une simple enquête allait tourner en un bain de sang. Alors que le soleil grimpe dans le ciel de Pine Ridge, le calme apparent se brise pour laisser place à une scène de violence qui changera à jamais la vie de la communauté et inscrira le nom de Léonard Peltier dans l'histoire controversée des relations entre le gouvernement américain et les peuples autochtones. Honnêtement, comment une enquête aussi banale a-t-elle pu dégénérer ainsi et quels étaient les véritables objectifs des agents ce jour-là? Justement, parlant des agents, alors que Kohler et Williams avançaient lentement sur la propriété, l'atmosphère était lourde, presque électrique. Ils savent pas qu'ils viennent de pénétrer dans une zone où la méfiance envers les autorités fédérales est à son comble. À Jumping Bull Ranch, les membres de l'AIM, harcelés depuis des mois par les Goons et surveillés par le FBI, vivent constamment sur le qui-vive. Je les blâme absolument pas, je pense qu'on serait toutes pareilles dans cette situation-là. Chaque visite, chaque mouvement suspect s'est perçu comme une menace. Tout à coup, en une seconde, tout bascule. Une fusillade éclate. Qui a tiré en premier? Encore aujourd'hui, personne ne peut répondre avec certitude. Qu'est-ce qu'on sait, c'est que le calme de la matinée est brisé par le claquement des coups de feu qui résonnent à travers la vallée et c'est le chaos total. Là, quand je dis qui a tiré le premier, mais moi, je me suis presque mêlée dans l'histoire. Je dis pas est-ce que c'est les agents ou du côté de l'AIM qui a tiré. On sait que c'est du côté de l'AIM, mais je voulais dire quelle personne a tiré en premier. On le saura jamais. C'était pas clair pour moi qui parle de l'histoire aujourd'hui, fait que je voulais juste être sûre que ce soit clair pour vous. Donc, les agents pris par surprise tentent de riposter, mais ils sont rapidement dépassés par un feu nourri venant de plusieurs directions à la fois. Leur véhicule devient une cible criblée de balles et les assaillants sont trop nombreux et trop bien positionnés. Ronald Williams, le plus jeune des deux, parvient à demander du renfort par radio, sa voix trahissant la panique. « Nous sommes sous le feu, envoyez de l'aide », mais les secours ne vont pas arriver à temps. Lui et Jack Kohler, qui est un père de deux enfants, sont gravement blessés, incapables de fuir. Alors que les tirs continuent, une autre figure émerge du chaos. Joe Stuntz, un jeune militant de l'AIM. Lui aussi trouvera la mort ce jour-là, touché par une balle dont l'origine reste floue. Joe Stone, ce n'était pas qu'un nom dans un rapport, c'était un homme, un frère, un fils engagé dans une lutte qu'il croyait juste. Joe Stone, membre de la tribu Cœur d'Allen, est né le 22 octobre 1951 à Tekoa. Après avoir été adopté par le docteur Edgar C. Stone et son épouse, il a obtenu son diplôme d'une école militaire en 1970 et a poursuivi ses études à l'Institution des arts amérindiennes de Santa Fe où il a rencontré sa femme, Ida Marie Charles. Marié en 1971, il a partagé sa vie entre Forks et Port Angeles avec ses deux fils. Joe était profondément attaché à sa famille et à sa communauté, laissant derrière lui un héritage de résilience et de fierté culturelle. Sa mort, tout comme celle des agents, reste enveloppée de mystère.
Ah, les agents sont décédés. J'avais compris que qu'ils avaient été touchés par des balles, mais j'avais pas capté qu'ils en étaient décédés.
Oui, il y avait beaucoup de gens comme un peu partout placés du côté de l'OIM qui tiraient. T'sais, ils étaient à découvert. Il y avait beau avoir essayé de se cacher derrière l'auto, c'était impossible pour eux de survivre. Puis on va y venir après, mais il y a quelqu'un qui s'est assuré qu'il soit tué ce jour-là aussi. Il n'y a pas juste eu comme la fusillade, il y a eu d'autres choses par après.
OK, on va rester à l'écoute.
Selon le site du mémorial de Joe Stuntz, les deux agents du FBI étaient des « rookies », en guillemets, comme on dit en anglais, donc des agents débutants, inexpérimentés, et je dis ça sans vouloir être péjoratif du tout, là. Ronald Williams avait seulement 27 ans et Jack Kohler en avait seulement 28. Bref, sans se méfier du danger, les agents sont entrés dans la cabane sans aucune discrétion. Puis ce qui s'est passé à leur arrivée était en quelque sorte inévitable. Peu d'informations est disponible sur les agents, mais de ce que j'ai pu trouver, Ronald Williams a travaillé pour le FBI pendant 3 ans. Il a laissé derrière lui ses parents et une sœur. Jack Kohler, pour sa part, a servi pendant 4 ans et avait précédemment servi dans le département de police de Los Angeles pendant 3 ans. Il a laissé dans le deuil son épouse, ses deux fils, ses parents, son frère et ses deux sœurs. Comment expliquer que le FBI, pleinement informé des tensions, des conflits et du danger omniprésent à Pine Ridge, ait pu envoyer 2 jeunes agents inexpérimentés dans une situation aussi explosive, sans même les préparer ou les alerter?
Puis aussi, de ce que j'ai compris, ils ont tardé avant d'envoyer du renfort pour leur apporter secours.
Ouais, je sais pas si c'est parce qu'ils étaient loin ou... Mais même à ça que tu le sais, tu crées une situation super dangereuse, super explosive. T'envoies 2 agents expérimentés, le moins que tu puisses faire, la moindre des choses, c'est au moins d'avoir du renfort pas trop loin, tu sais.
Ouais, c'est ça. On dirait que pour moi, ça peut pas être une excuse de dire « ben le renfort était loin ». Je veux dire, vous auriez dû vous préparer, puis le renfort aurait dû être à proximité, à mon sens.
Moi aussi. Je veux donner toutes les faits pour que vous, à l'écoute, vous les ayez tous, mais tu sais, mon opinion est pareille que celle de Jess, là. C'est juste complètement stupide, leur affaire.
Je veux dire, je vais juste me mettre à la place de leur famille. Ça aurait pu être quelqu'un qu'on aimait, qu'on connaissait. Je veux dire, moi, si... on envoie quelqu'un sur le terrain, j'ose espérer qu'il y a toutes les ressources pour pas qu'il en décède.
Exactement, puis est-ce qu'il devait s'en douter quand même qu'il y avait des tensions, il travaillait quand même dans les forces de l'ordre depuis une couple d'années, mais même à ça, t'es inexpérimenté, puis tes boss te disent « ah, va faire ça, c'est une petite job de rien ». Tu vas revenir dans pas trop de temps, puis là, t'arrives là, puis finalement, tu trouves la mort.
Ça me fait penser, j'ai un parallèle assez rapide, mais je pense que son nom, c'était Maureen Bro, la policière qui n'avait pas été informée adéquatement du cas dont elle allait traiter et qui a été assassinée parce qu'elle pensait juste aller traiter une chicane de couple et au final, elle entrait dans la maison de quelqu'un qui était dangereux et délinquant.
Oui, je me rappelle de ça. C'est fou, mais semble, en tout cas, je veux pas m'éterniser là-dessus, mais me semble que c'est la moindre des choses. T'sais, ça arrive des fois des erreurs, mais dans le système qu'on a, en tout cas, j'ose espérer, qu'il y a plusieurs personnes, il y a plusieurs étapes à suivre pour justement que s'il y a une erreur, il y a au moins quelqu'un quelque part qui va le réaliser, là.
Non, je te seconde complètement là-dessus.
Bref, justement, pour revenir au FBI, est-ce que c'était de l'imprudence ou une stratégie délibérée? Est-ce que c'était une façon de provoquer une escalade et de justifier ensuite des actions répressives, même au prix de la vie de leurs propres hommes? Une question troublante qui mérite qu'on y réfléchisse. Le FBI a prouvé à maintes reprises qu'il était prêt à tout pour assouvir un agenda bien éloigné de la justice impartiale qu'il prétend représenter. Rappelons-nous de son rôle dans l'assassinat de figures emblématiques des droits civiques comme Malcolm X ou Fred Hampton, le jeune leader des Black Panthers, abattu seulement à 21 ans, dans une opération orchestrée par le FBI et la police de Chicago. Pensons aussi à la campagne de surveillance et de harcèlement menée contre Martin Luther King Jr., dans une tentative de le discréditer et de briser le mouvement pour l'égalité raciale. Moi, je trouve que ces exemples montrent bien qu'il ne s'agissait pas de protéger les citoyens, mais de maintenir un certain ordre établi. Alors, est-ce que c'est vraiment surprenant de croire que les événements de Pine Ridge pourraient également s'inscrire dans cette logique d'oppression? Une question qui, encore une fois, mérite qu'on s'y attarde. Pour revenir au fameux 26 juin 1975, quand la fumée retombe, les corps des agents Kohler et Williams sont retrouvés tués à bout portant. L'agent Williams avait été touché au bras gauche, au côté gauche, à la main droite et à la tête. L'agent Kohler avait des multiples blessures au bras et à la tête. Qui a tiré ses coups? Qui a fait le choix d'appuyer sur la gâchette? Là encore, les opinions divergent et les preuves manquent. Le FBI, furieux et déterminé, désigne rapidement des coupables, Léonard Peltier et d'autres membres de l'AIM. Mais à Pine Ridge, les habitants parlent d'un autre scénario, d'une confusion totale où personne ne sait vraiment ce qui s'est passé. Alors justement, qu'est-ce qui s'est passé ce matin-là? Est-ce que c'était une défense désespérée ou une attaque préméditée? Les agents savaient-ils vraiment dans quoi ils mettaient les pieds ou ont-ils été pris au piège dans un conflit bien plus vaste qu'eux? Et surtout, la question qui hante encore cette journée tragique. Qui a appuyé sur la gâchette ce jour-là pour exécuter les agents du FBI?
Ouais, justement, je me demande, là, t'as dit, les agents, les deux, avaient reçu des projectiles dans la tête. Est-ce que c'est quelqu'un qui l'a fait execution style, donc dans le style exécutoire, en mode faut s'assurer que la personne est bel et bien décédée, ou est-ce que c'est une balle perdue dans l'échange de coups de feu qui a atterri malencontreusement dans la tête des policiers?
Non, il y a des preuves que, justement, il y a eu des balles que les policiers ont reçues parce que, justement, c'était une fusillade, mais après ça, quelqu'un est allé execution style, comme tu dis, pour tuer les agents. Quand le calme est retombé à Jumping Bull Ranch après la fusillade, Léonard Peltier sait que les choses ne seront plus jamais comme avant. Les autorités fédérales sont en route et c'est clair que la communauté autochtone va être tenue responsable de la mort des deux agents du FBI. Convaincu qu'il ne va pas recevoir un procès équitable dans ce climat de tension raciale et politique, il décide de fuir. Il prend la direction du Canada, espérant trouver refuge et du temps pour prouver son innocence. Personnellement, je comprends. Je sais qu'il y a des gens qui disent beaucoup sur Internet « Ah, mais pourquoi il s'est enfui si c'est pas lui qui le fait? » Mais que tu prends tout le contexte ensemble, c'est juste logique. Moi aussi, c'est sûr qu'il n'y aurait pas eu un procès équitable, et d'ailleurs, il n'y en a pas eu un. On est dans les années 75, déjà là en partant, puis en plus de ça, avec tout ce qui se passait avec les communautés autochtones, les peuples autochtones, c'est impossible qu'il y ait un procès équitable.
Puis aussi, si on prend en considération le nombre de fois où il a été déçu ou même oppressé par les actions du gouvernement lui-même, c'était tout ce qu'il connaissait. Je veux pas dire que ça l'excuse, mais on peut comprendre. À Crime et Cocktail, on a vraiment la phrase « understanding, not excusing », donc comprendre, mais pas excuser. Donc je pense que c'est exactement ce qu'on fait à ce moment-là. Si on se met dans le contexte dans lequel il a grandi puis dans lequel il a toujours été démontrer qu'il fallait qu'il s'inquiète de ce que le gouvernement pouvait faire. Je sais pas ce que j'aurais fait dans sa situation, mais c'est probablement que fuir aurait été une option que j'aurais trouvée considérable.
Ouais, moi aussi. Puis la continuité de l'histoire va nous prouver qu'il y avait raison de faire ça. Bref, pendant ce temps-là, les compagnons de Léonard, Robert Robideau et Dino Butler, également présents pendant la fusillade, sont arrêtés et traduits en justice. Pendant leur procès, leur avocat plaide la légitime défense, arguant que les militants de l'AIM étaient constamment harcelés, soit par les goons, soit par le FBI, soit les deux en même temps. Les preuves présentées par l'accusation sont jugées insuffisantes et en 1976, Robideau et Butler sont acquittés. C'est une décision qui choque le gouvernement qui, malheureusement, va intensifier ses efforts pour arrêter Léonard, qui est maintenant considéré comme leur suspect principal. Au Canada, Léonard est arrêté en février 1976 par la Gendarmerie royale du Canada. Son extradition vers les États-Unis est marquée par des controverses. Les autorités américaines présentent des affidavits prétendument écrits par une femme autochtone, Myrtle Porbear, qui affirme avoir été témoin de Léonard tuant les agents du FBI. Mais plus tard, ça va être révélé que ces déclarations ont été obtenues sous la contrainte et sont fausses. Malgré ça, le Canada accepte de le remettre aux États-Unis. Son procès débute en 1977 et contrairement à Robideau et Butler, Léonard n'a pas droit aux mêmes ressources légales ni au même soutien. Les preuves utilisées contre lui sont souvent indirectes ou contestées, notamment une arme prétendue liée au meurtre, bien qu'aucune correspondance claire ne soit établie. L'accusation insiste sur le fait qu'il était présent sur les lieux et pointe du doigt son rôle présumé de leader.
Pourquoi il n'a pas eu le droit à la même défense? Ben, je veux dire, au même droit, comme tu viens de mentionner, est-ce que c'est parce qu'il s'est enfui pendant tant de temps ou?
Non, c'est parce que le gouvernement était assuré que toutes les personnes arrêtées allaient justement aller en prison, coûte que coûte. Il n'y a aucune justice dans ces années-là, même encore aujourd'hui. Puis là, ben, deux des trois accusés sont libérés, donc ils se sont juste complètement acharnés sur Léonard Peltier.
D'accord, merci.
Justement, parlant des preuves, si les preuves contre Robideau et Butler étaient insuffisantes pour une condamnation, pourquoi est-ce que Léonard Peltier est devenu leur suspect principal? Est-ce que c'était une question de représailles, de besoin de justice ou peut-être d'un coupable désigné dans un contexte où la pression politique était immense? Bref, Léonard est finalement reconnu coupable et condamné à deux peines de prison à perpétuité. Cependant, les zones d'ombre entourant les événements de Jumping Bull Ranch, la manipulation présumée des preuves et les failles dans le processus judiciaire continuent d'alimenter un débat sur son innocence. Pour ses partisans, Léonard Peltier est non seulement un symbole de résilience autochtone, mais aussi un exemple des injustices subies par son peuple face à un système qui, encore aujourd'hui, laisse peu de place à l'équité. Justement, on va comme plonger un tout petit peu dans le procès. C'est souvent cité comme un exemple frappant des manipulations judiciaires dans un contexte de répression politique. Dès le départ, le rôle du FBI dans cette affaire a suscité de nombreuses questions. Pourquoi autant d'irrégularités et pourquoi un tel acharnement contre un homme alors que les preuves directes manquaient? On va prendre l'exemple justement des affidavits de Myrtle Poorbear. C'est une femme qui vivait à proximité de la réserve de Pine Ridge qui a affirmé, comme j'ai dit, sous serment, avoir vu Léonard Peltier tuer les deux agents. Ces témoignages-là ont été utilisés pour convaincre le Canada d'extrader Léonard Peltier, mais plus tard, elle a révélé que ses déclarations étaient complètement fausses. Elle a témoigné avoir été intimidée et menacée par les agents pour signer les documents. Si le FBI était si sûr de sa culpabilité, pourquoi est-ce qu'ils avaient besoin de fabriquer des preuves? Les manipulations ne s'arrêtent pas là. Pendant le procès, l'arme que l'accusation a présentée comme étant celle de Peltier, supposément utilisée pour tuer les agents, n'a jamais pu être reliée de façon concluante aux balles retrouvées sur les lieux. Encore, des documents récemment déclassifiés montrent que le FBI a délibérément caché des preuves qui auraient pu soutenir la défense de Léonard Peltier. Ces éléments-là comprennent des rapports balistiques et des témoignages potentiellement disculpatoires qui n'ont jamais été rendus publics, seulement des décennies plus tard. Les incohérences du procès ne se limitent pas aux preuves matérielles. Les avocats de Léonard Peltier n'ont même pas eu accès aux mêmes ressources que ceux de Robideau et Butler, ses compagnons qui ont été acquittés. Le procès s'est déroulé dans une ambiance tendue, marquée par une méfiance généralisée envers les militants de l'AIM. À l'époque, le FBI menait une campagne active contre l'AIM qu'il considérait comme une menace pour l'ordre public. Les militants étaient surveillés, harcelés et, dans certains cas, victimes de violences. Le climat politique de l'époque joue également un rôle clé dans l'histoire. Les années 70 sont marquées par une série de mouvements pour les droits civiques aux États-Unis. Pour le FBI, sous la direction de J. Edgar Hoover, ces mouvements, qu'ils soient afro-américains, autochtones ou étudiants, représentaient des dangers à neutraliser. Dans cette logique, Léonard Peltier n'était pas seulement un suspect, il était un symbole à abattre. Là, je vais poser une question rhétorique. Mais est-ce que la justice peut être réellement rendue quand elle est influencée par des objectifs politiques? Depuis sa condamnation, Léonard Peltier a fait appel à plusieurs reprises, mais ses requêtes ont tous été rejetées. Même lorsque des preuves de manipulation ont été présentées, les tribunaux ont refusé d'ouvrir son dossier. Comment expliquer cet entêtement si ce n'est pas par la peur de remettre en question l'intégrité des institutions impliquées? Aujourd'hui encore, des voix s'élèvent pour demander sa libération, soulignant que le procès de Léonard Peltier n'a jamais été équitable. Pour ses défenseurs, il ne s'agit pas seulement d'obtenir justice pour un homme, mais de dénoncer un système qui, trop souvent, sacrifie des individus au nom de l'ordre établi. Là, avant de passer à où est-ce que Léonard Peltier est aujourd'hui, je vous demande, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on peut vraiment parler de justice dans de telles conditions, ou est-ce qu'il s'agit d'un exemple de plus où la politique écrase les droits d'un individu et pas juste la politique, là, simplement le racisme et la méchanceté, pour le dire comme ça. Là.
Puis aussi, je pense qu'il y a l'espèce de vendetta d'absolument vouloir trouver un coupable pour leur père qui ont perdu la vie aussi. Je pense que ça aussi, ça doit être pris en considération. Puis c'est sûr que ça entre en ligne de compte, comme tu l'as dit, étant donné que les deux autres accusés dans l'affaire avaient été acquittés. On dirait que peut-être qu'il y a eu une espèce de sentiment de vengeance à tout prix et qu'il fallait qu'il y ait un coupable, tu sais.
C'est tellement triste parce que il y a trois personnes qui sont décédées cette journée-là. C'est triste pour les familles et les vies de ces trois personnes-là. Puis au final, le gouvernement s'en foutait bien raide. Le gouvernement voulait juste trouver un coupable, coûte que coûte, peu importe c'était qui, peu importe si c'était le bon ou pas. Puis tu sais, on s'entend que le gouvernement a créé ces situations-là lui-même. Tu sais, ça me décourage.
Ouais, c'est vraiment un serpent qui se mord la queue.
Bref, Léonard Pelletier, aujourd'hui, âgé de 79 ans, demeure incarcéré dans une prison fédérale aux États-Unis où il purge deux peines, comme j'ai dit, consécutives à perpétuité. Après presque 5 décennies passées derrière les barreaux, il est devenu une figure emblématique, non seulement pour les luttes autochtones, mais aussi pour les mouvements mondiaux en faveur des droits humains. Aujourd'hui, la santé de Léonard Pelletier est un sujet de préoccupation majeure. Souffrant de plusieurs problèmes médicaux, notamment de diabète et d'une hypertension sévère, il a également contracté la COVID-19 pendant la pandémie, ce qui a aggravé son état général. Malgré les conditions difficiles de la prison, Léonard Pelletier continue de clamer son innocence et reste actif en écrivant et en s'adressant à des partisans à travers des lettres ouvertes. Le cas de Léonard Pelletier a attiré l'attention d'organisations majeures et de personnalités influentes. Amnesty International le considère comme un prisonnier politique et a demandé sa libération immédiate, arguant que son procès a été entaché d'irrégularités flagrantes. L'organisation insiste sur le fait que, même si Léonard Pelletier était coupable, les circonstances de son arrestation, de son extradition et de son procès justifieraient au moins une révision complète de son dossier. Comme j'ai dit, il y a de nombreuses célébrités qui ont également pris position pour Léonard Pelletier. Des figures comme Robert Redford, réalisateur du documentaire Incident at Oglala, et l'acteur Danny Glover, parmi d'autres, ont dénoncé ce qu'ils qualifient d'injustice flagrante. Des musiciens comme Rage Against the Machine et Pearl Jam ont intégré des messages de soutien à Léonard Pelletier dans leurs concerts et leurs œuvres. Les organisations autochtones, quant à elles, voient en Léonard Pelletier un symbole de la lutte contre l'oppression systémique. Pour ces communautés, son incarcération représente bien plus qu'une affaire individuelle. Elle incarne les injustices historiques et continues subies par les peuples autochtones aux États-Unis. Cependant, l'opinion publique autour de Léonard Pelletier reste divisée. Pour ses partisans, c'est évident que Léonard Pelletier a été accusé à tort, victime d'un procès biaisé d'une vendetta politique menée par le FBI. Les questions entourant les preuves dissimulées, les témoignages obtenus sous contrainte et l'impossibilité de lier de façon concluante Léonard Pelletier à l'arme du crime renforcent cette conviction-là. De l'autre côté, certains anciens agents du FBI et leurs familles maintiennent que Léonard Pelletier est coupable. Ils considèrent qu'il est responsable de la mort brutale de deux agents fédéraux et estiment que sa condamnation est juste. À ce jour, le FBI s'oppose fermement à toute demande de grâce ou de libération conditionnelle. Malgré des appels répétés pour une grâce présidentielle, notamment sous les administrations Clinton, Obama et récemment Biden, Léonard Pelletier reste toujours emprisonné. Chaque président a dû faire face à une forte pression des deux côtés, entre les défenseurs de Léonard Pelletier et ceux qui plaident pour que la justice soit rendue aux agents du FBI décédés. La question demeure, Léonard Pelletier va-t-il finir ses jours en prison ou est-ce que l'histoire va lui offrir une seconde chance? Pour ses soutiens, sa libération représenterait un pas vers la réconciliation et la reconnaissance des erreurs du passé. Mais pour ses détracteurs, ça constituerait une trahison envers les familles des agents tués ce jour fatidique de 1975. Encore une fois, je vous demande, qu'est-ce que vous en pensez de cette histoire-là? Est-ce que vous croyez que Léonard Pelletier est une victime de la justice ou un criminel dont les actes justifient son incarcération? Personnellement, je trouve qu'il y a des gens qui ont été libérés, qui ont été acquittés de leurs crimes pour pas mal moins que ça. Je trouve qu'il y a trop de questions sans réponse. Puis déjà là, il y a eu plein de preuves falsifiées, fabriquées. Je vois pas pourquoi cet homme-là est toujours en prison. Puis tu sais, là, j'ai pas nommé l'administration Trump parce que évidemment, l'administration Trump n'allait pas libérer Léonard Pelletier. Mais j'ai nommé les administrations démocrates parce que Je sais pas, mais il semble que ça serait quelque chose qui ferait, là, qui rime avec les agendas qu'ils ont, mais bref.
Ouais, non, clairement, c'est tout un casse-tête, ce cas-là. Je suis vraiment sans mots, on dirait que j'ai le cerveau en jello à force de tout penser. Tu sais, en même temps, comme tu dis, il y a deux agents qui ont perdu la vie, c'est tragique, ça aurait jamais dû arriver, mais ça a comme un peu résulté au fait que Léonard Pelletier ait aussi perdu sa vie, qui était déjà vraiment entachée par plusieurs traumatismes générés par le gouvernement. Ok, c'est un cas assez lourd, merci. Je comprends objectivement que la population soit divisée en deux parce que la population est souvent divisée en deux sur plusieurs sujets, mais surtout un sujet aussi touchant que ça, parce que d'un côté, on veut s'assurer que les assassins de ces agents-là soient punis, mais de l'autre, est-ce qu'on veut vraiment le faire à tout prix, même au détriment de la justice en soi, parce que c'est pas juste de falsifier des preuves. Puis comme tu dis, il y a tellement de personnes qui ont été acquittées pour moins que ça, ou des cas qui ont été révisés pour moins que ça, et c'est pas le premier cas qu'on présente à Crime et Cocktail dans lequel la justice a juste nommé un coupable parce qu'ils en voulaient un coûte que coûte. Que, ouais, c'est vraiment, vraiment un cas qui porte à la réflexion. Je suis sans mots.
Moi, ce que j'aime pas non plus de cette histoire-là, c'est que, OK, oui, il y a deux agents du FBI qui sont décédés, c'est vraiment triste, je veux pas enlever la lumière sur ces victimes-là, mais on parle jamais de Joe Stuntz. On parle jamais de cette victime-là. Lui, son meurtre est resté impuni, on sait pas trop ce qui s'est passé, puis ça, tout le monde s'en fout, tout le monde est juste comme focussé à dire que Léonard Pelletier est coupable, puis il passe vraiment en dessous du tapis, il passe vraiment sous silence, puis ça, je trouve ça vraiment dommage que la justice n'ait jamais été rendue pour lui. Puis moi, personnellement, mon opinion vraiment personnelle, c'est que je soutiens Léonard Pelletier. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé cette journée-là, mais justement, je trouve que le FBI, les agents fédéraux, auraient dû faire plus d'efforts. C'est tous les efforts qu'ils ont mis pour rendre Léonard Pelletier coupable, ils auraient dû les mettre à essayer de trouver le vrai coupable, la vraie histoire de ce qui s'est passé cette journée-là. Puis je vais aller encore plus loin. Si, justement, Léonard Pelletier est coupable d'avoir tué ces deux agents-là, ben, il y a pas que... c'est sûr qu'il y a quelqu'un quelque part dans le FBI qui doit être coupable de quelque chose aussi parce qu'ils n'ont pas bien fait leur travail. Ils ont littéralement envoyé deux jeunes inexpérimentés sans leur dire ce à quoi ils allaient faire face là-bas. Ils ont juste envoyé dans la gueule du loup littéralement. Fait que je peux pas croire qu'il y a pas quelqu'un qui peut se faire arrêter pour ça aussi, mais non, parce que ça c'est le FBI puis ça c'est intouchable. Fait que, bref, c'est vraiment une situation compliquée, mais je voulais en parler aujourd'hui à Crime et Cocktail parce qu'on veut justement mettre la lumière sur les victimes, puis on veut mettre la lumière sur des cas qui méritent d'être parlés. Puis peu importe votre opinion là-dessus, mais si vous voulez soutenir Léonard Pelletier ou en apprendre plus là-dessus, vous pouvez le faire. Puis c'est à vous de voir comment vous positionner dans cette histoire-là.
Ouais, non, complètement. Puis aussi, si jamais vous êtes de l'autre côté de la médaille, on veut entendre votre opinion, on veut savoir ce que vous en pensez à Crime et Cocktail, malgré le fait que des fois, oui, on va parsemer nos épisodes de quelques petits commentaires éditoriaux par-ci, par-là. C'est un safe space ici, vous avez le droit à votre opinion et on veut l'entendre aussi. Je pense qu'il y a une nouvelle section sur Spotify qui vous laisse l'occasion de commenter. Alors, on vous inviterait à le faire ou sinon, tout juste nous envoyer un message privé dans nos DM à Crime et Cocktail Podcast sur Instagram. Facebook, on va vous dire les vraies affaires, ça prend un petit peu le bord, on a un petit peu moins de temps pour ça. Alors voilà, je vous invite vraiment à avoir vos opinions parce que je suis tellement divisée, je suis tellement troublée par ce que je viens d'entendre. Puis comme tu dis, il n'y a personne d'imputable au FBI, c'est un point que je trouve qui est intéressant que tu viens de souligner. Que voilà, moi je pense que la conversation ne s'arrête pas là, puis je serais vraiment intéressée d'entendre vos opinions.
Oui, puis on s'entend, j'ai fait rentrer tout ce cas-là. Toute cette information-là en un épisode de quoi? 45 minutes, une heure? Là, fait qu'il y a encore plus de choses à dire. Mais bref, on va pas s'éterniser. Je veux juste aussi souligner avant de finir l'épisode que c'est un cas qu'une de nos auditrices nous a conseillé. Donc, merci à toi. Sur ce, on va finir avec notre tradition. Jess, de quoi tu me parles au prochain épisode?
Mais le prochain épisode, on prend le micro à deux, ma bonne chum, et on prend l'avion, on s'en va pour la toute première fois de l'histoire des Crimes et Cocktails en Indonésie, et on s'en va voir un magicien qui est considéré comme l'un des plus grands magiciens de magie noire en Indonésie. Mais si vous voulez notre avis, c'était peut-être pas de la magie, et peut-être plus de la folie.
J'aime ça, ça rime.
Vous pouvez m'appeler Eminem Jess, Emmy Jess, The Real Slim Jessie.
Je sais pas quoi dire.
On dirait, on fait juste oublier cette blague plate et on se dit à la semaine prochaine. Ah!
Crée mes cocktails.
Cheers, guys!
Chin, chin!